Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour,
les poètes,
une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors un événement, cette semaine, un événement même presque immédiat, puisque il s'agit de ce jeudi qui arrive, le jeudi 21 mai. Le jeudi 21 mai à 18h, dans la salle Clémence Isor de l'hôtel d'Acesa, siège de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, aura lieu une soirée hommage consacrée à Michel Cozem. Alors, c'est un événement qui a une certaine solennité, du fait que cet événement va se dérouler dans la salle prestigieuse qui est la salle Clémence Isor de l'Académie des Jeux Floraux, laquelle Académie vient de fêter ce mois de mai 2024 le 7e centenaire de son existence. Et il fallait bien ça pour cet hommage qui est dû à une des plus fortes personnalités de la poésie qui a enjambé le 20e et le 21e siècle. Alors, Michel Cozem, il est né en 1939. Il s'est éteint le 10 juin 2023 dans le Lot, à Iceps, près de Figeac. Pendant 63 ans, Michel Cozem a animé la revue et les éditions Encre Vive. Il n'y a pas de précédent d'un personnage littéraire qui ait pu assumer une aussi longue longévité sur la diffusion de la poésie contemporaine. Et la disparition, le 10 juin 2023 de Michel Cozem, n'a pas entraîné la disparition de la revue Encre Vive et des éditions Encre Vive. Et ça aussi, il y a là quelque chose qu'il faut saluer, car c'est vraiment exceptionnel. Combien, dans ces 63 ans, avons-nous vu de revues portées à bout de bras, généralement par leur animateur, leur directeur, et qui, à la disparition de celui-ci, s'effondrait. Encre Vive, ce n'est pas le cas. Et donc, les éditions Encre Vive et la revue Encre Vive perdurent. Il y a une continuité. Cette continuité, elle est visible notamment par le changement de format de Encre Vive, qui était en A4 et qui maintenant a réduit son format de moitié, donc ça fait un petit livre beaucoup plus commode à avoir entre les mains, beaucoup plus agréable, il faut le dire, et aussi certainement beaucoup plus facile pour les expéditions par la poste. Et donc le premier numéro d'Encre Vive, qui est dirigé maintenant par Éric Chassefière, qui s'est installé, c'est un poète, hein, qui avait bien entendu publié en Encre Vive, qui avait l'amitié de Michel Cozem. Et ce poète, à la fin de sa vie active, a décidé donc de consacrer son énergie, son temps, son talent à la poursuite de cette revue Encre Vive. Et il s'est installé chez nous, en Occitanie, à Frontignan, très belle ville, hein, près de Sète, et vous pouvez vous abonner à Encre Vive en écrivant à Éric Chassefière, Chassefière C-H-A-2-S-E-F-I-E, accent grave, R-E, Éric Chassefière, 232 avenue du Maréchal Juin, 3410 à Frontignan. Vous pouvez également le joindre sur un mail, encre, en minuscule et au pluriel, encre, un point, vive, toujours minuscule et au pluriel, encrevive34@gmail.com. Alors l'abonnement à la revue Encre Vive vous coûtera pour un an, ces 12 numéros, 40 euros. Voilà. Je vous invite donc à vous abonner à cette revue. Et donc le premier numéro de qui a fait paraître donc cette nouvelle Encre Vive est celui qui a été consacré, bien sûr, à Michel Cozem. Donc c'est un spécial Michel Cozem, une vie consacrée à la poésie. Et ce numéro s'est fait sous la supervision de Annie Brier. Annie Brier, donc, qui a accompagné la vie de Michel Cozem et qui vit là où ils étaient, dans le Lot, à Isseps. Annie Brier, je pense que nous l'avons au téléphone. Annie Brier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Excusez-moi, mais ça bourdonne un peu. Merci d'être avec nous. Annie, est-ce que tu m'entends bien?
Oui, je vous entends très très bien.
Bon, alors, je parlais du premier numéro d'Encre Vive, une vie consacrée à la poésie.
Oui.
C'est toi, Annie Brier, qui a supervisé ce numéro, où on va trouver, bien sûr, la garde rapprochée de Michel Cozem, hein. Et, c'est-à-dire toi, Catherine Bruno, qui fait partie maintenant du comité de rédaction d'Encre Vive, Éric Chassefière, Jean-Louis Clarac, Michel Ducombe, Gilles Lade, Jacqueline Saint-Jean et moi-même. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit dans ce numéro qui recueille donc les témoignages des auteurs que je viens de citer?
Bon, alors, il me revient à moi de présenter l'enfance et la jeunesse de Michel Cozem, dont il m'a beaucoup parlé et dont il a écrit l'essentiel dans 135 pages d'un essai autobiographique commencé en mars 2022 et hélas jamais terminé, mais nous avons l'essentiel sur son enfance. Donc, c'était le dernier né d'une famille de deux enfants. Il est né 6 ans après son frère. Il est né en 1939, comme tu l'as dit tout à l'heure, en Tunisie, à Radèche, près de Tunis. Son père n'était pas du tout un colon, il travaillait à l'ambassade française, et son enfance, malgré la Deuxième Guerre mondiale, dont il se souvenait très très bien, a été particulièrement heureuse au milieu d'un jardin qu'il appelait « des mille et une nuits ». Parce que c'était un très très grand parc avec beaucoup de végétation luxuriante, généreuse, et avec aussi beaucoup d'animaux. Et il a appris tout à fait enfant à vivre avec les oiseaux, avec les poissons, avec des tortues d'eau, des papillons. Et son imaginaire s'y est déployé, et comme il ne s'entendait pas très bien avec son frère, donc on peut dire dans une solitude habitée par la faune et la flore, et une solitude très heureuse. Il commence très tôt à écrire. Je vais peut-être parler un petit peu avant de commencer de son écriture, de son grand-père, parce que son grand-père maternel, parce qu'il évoque dans cette autobiographie, il évoque la personnalité de son grand-père qu'il n'a connu, hélas, que les cheveux bien blanchis et vers la fin de sa vie, mais c'était le fondateur puis le directeur d'un grand journal de Tunisie qui s'appelait La Dépêche, et en tant que directeur de ce grand journal, il a rencontré des tas de gens. Michel dit que tous les gens qui venaient en Tunisie passaient par lui. Bon, c'est vrai, je n'en sais rien. Et il a hérité de ce grand-père des livres, des relevés de brochures qui l'informaient sur l'histoire de la Tunisie, sur la faune, sur la flore, sur l'architecture des mosquées. Et cet immense champ de connaissances a construit en Michel la reconnaissance de l'histoire et des cultures, et toute sa vie, ça l'aura intéressé. Il se sera intéressé à toutes les cultures, pas seulement celles du Maghreb, mais de toutes les cultures, de toutes les histoires. Et au niveau de l'écriture, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il commence très tôt à écrire, mais en cachette, et c'est ça qui est amusant, en cachette de sa mère, parce que bien qu'elle aimait les arts, la musique et la peinture, elle avait une prévention contre les écrivains qu'elle jugeait vraiment trop révolutionnaires. À son goût. Donc, son travail de poète, n'ayant pas d'écho non plus à l'école, c'est lamentable, mais c'est comme ça, ni à l'école primaire, ni au collège, il envoie de lui-même plusieurs textes à La Dépêche. Un poème, alors, donc, c'est plus La Dépêche de son grand-père, mais enfin, c'est tout de même La Dépêche. Il envoie un poème, un conte et un petit roman. Et à sa stupéfaction, et surtout à celle de ses parents, il obtient tous les prix des Jeux floraux de cette année-là en Tunisie. Et il renouvellera cet exploit un peu plus tard à Luchon, parce que il venait 2 mois en vacances, souvent, enfin en France et souvent à Luchon, et il va recommencer, non pas avec un poème et un petit roman, mais simplement avec un poème, et il l'envoie au petit Comminjois, qui le publie. Et lui, Michel, qui est quand même, on le sait, de nature assez timide, même quand il est, quand c'est un vieux monsieur de 84 ans, ce n'est pas quelqu'un de fier à bras, il est plutôt timide, et bien même adolescent, jeune adolescent, et en vacances en France, pas du tout vraiment comme un petit Français ordinaire, il a l'audace d'aller voir le directeur qui, ravi, sollicite sa collaboration. Et ce qui aura lieu pendant des années, il lira, on lui enverra des romans, et il faudra qu'il en fasse le résumé, qu'il en parle, et ça aura lieu donc. Et je peux dire que dans ces deux actes de jeune adolescent, il y a en germe l'écrivain Michel Cosem. Parce que, bien que de nature très discrète, il n'aura de cesse de faire éditer ses textes. Et l'essentiel de ceux-ci sont déjà annoncés. La poésie, les contes, les romans. Voilà. Donc, une jeunesse si riche, on peut dire que sa jeunesse si heureuse dans ce grand parc du grand-père, parce que la maison en fait appartenait à son grand-père maternel, cette jeunesse si riche, si harmonieuse, si proche de la nature, n'a pu que nourrir une poésie comme dit Gilles Lade, habité par la grâce profonde du sentiment d'être et d'exister. Et Gilles ajoutera même cette expression, l'œuvre poétique de Michel Cozem ou l'aveuglant paradis. Donc ça, c'est pour sa jeunesse, sa toute première jeunesse. Et je vais continuer un tout petit peu, puisqu'il me reste 5 minutes, je crois. Installé définitivement en France.
Le temps ne compte pas, le temps ne compte pas, ni.
Je compte pas le temps.
Oui, oui. Bon,
merci.
C'est trop important,
donc,
ce que tu dis.
Donc, installé définitivement en France, étudiant à Toulouse, dans l'atmosphère irrespirable de la guerre d'Algérie, il faut bien le dire. C'est très important pour lui, pour sa génération et pour tous ses copains. Il s'engage à l'UNEF, il vend le journal Prométhée, dont très vite il deviendra le directeur. Il crée un club poésie qui se réunit chaque semaine avec 20 à 30 participants qui lisent de leurs poèmes. Le club fonde alors une revue qui a tout de suite pris le nom d'Encre Vive. Ils sortent numéro sur numéro. 2 anthologies, l'une en 62 et l'autre en 63, vont voir le jour. Et le plus extraordinaire, c'est 1965, il y a un congrès qui a lieu à Bruxelles avec Claire Léga et qui va fédérer diverses petites revues de poésie belge et française. Et plus que ça, l'été suivant, il y a un grand rassemblement poétique à Coarraz, près de Nice, qui va permettre un développement considérable de la revue, avec un tirage de 2500 exemplaires, ce qui époustoufle Eric et nous tous. Michel, donc, écrivait dans l'éditorial de numéro 55, c'est le début d'une longue marche. Elle a aujourd'hui plus de 60 ans. Voilà ce que je voulais dire d'essentiel sur les débuts de la revue, de la vie de Michel. Voilà.
Alors, tu as parlé...
Voilà, Christian, si tu veux que j'ajoute quelque chose.
Oui, oui. Ce que l'on va faire, si tu le veux, Bernie... dans quelques minutes, nous allons entendre le dernier recueil, donc recueil posthume de Michel.
Que j'ai retrouvé inédit.
Oui. Oui. L'heure de la tourterelle, oui. Qui a été dit à cette occasion, et spécialement donc pour cela, par Bruno Ruiz.
Oui.
Avant, je voudrais dire quelque chose. J'ai entre les mains un livre que tu connais bien certainement, c'est le Michel Cozem par Jean-Marie Le Sidaner.
Oui.
Aux éditions de Rouergue, hein. C'était oui. Ces éditions oui. Qui est Visage de ce temps, qui a été dirigé par Jean Digot à Rodez.
Oui.
Dans la dédicace, Michel m'a écrit à Christian Saint-Paul, cette nouvelle pierre à notre territoire commun, Michel Cozem par Jean-Marie Le Sidaner, avec la fidèle amitié de Michel Cozem, c'était en juin 1992. Et voilà ce que je lis. Il parle, Jean-Marie Le Sidaner, donc des visages des poètes, et il parle donc du visage de Michel Cozem. Et il dit... Celui de Michel Cozem m'a paru donc un été où j'avais accepté son invitation au fenoul. Il me frappa d'abord par son calme, que j'appris vite à comprendre comme la marque d'une secrète inquiétude. Un visage étonne par la façon singulière dont il offre son mystère, ou par sa manière parfois brutale de refuser aux autres tout accès à ce mystère. Il est des visages qui se ferment, qui grimacent pour expulser l'autre de leur territoire. Michel Cozem s'est présenté d'emblée comme un homme qui s'expose sans pour autant s'exhiber, comme un écrivain ouvert à la présence d'autrui. Même au pire moment de dogmatisme du groupe Encre Vive, lorsque la fièvre idéologique s'est emparée de la plupart d'entre nous, hélas, j'ai trouvé en Michel Cozem un accueil, une fermeté éthique qui n'est pas si courante dans le milieu littéraire auquel, du reste, il n'appartient que de droit. Je puis l'affirmer, s'il fréquente des poètes et des écrivains, c'est par souci de partager une parole libre, vivante. Au cours de ces 20 années d'amitié avec lui, on imagine sans peine nos désaccords dus à des choix esthétiques, moraux différents. Je me suis souvent demandé pourquoi la parole, le visage de Michel Cozem n'avait cessé de m'importer. Certes, son œuvre se construisait avec une vigueur, une patience, un refus des compromis bien caractéristiques de l'homme qu'il est. Mais son univers n'était pas le mien, et il était tant d'autres écrivains dont je ressentais l'influence plus prégnante. Voilà. On va s'arrêter là, mais je voulais dire à quel point, effectivement, cet homme, il marque par ce calme, cette bienfaisance et cette ouverture. Et dans le milieu poétique que moi j'ai fréquenté depuis l'âge de 12 ans, j'en ai 75, donc j'ai vraiment bien suivi, comme Michel, tous ces auteurs dans de ces décennies, eh bien, je dis que quelqu'un comme Michel Cozem, c'est quelqu'un d'exceptionnel par son ouverture, absolument exceptionnel. Et je voudrais, moi, que les nouveaux qui arrivent ressemblent un petit peu à ce que fut cet homme qui était d'une grande bienveillance, et tous ceux qui l'ont connu, qui ont présenté leur texte. Je pense à Stéphane Amiot, par exemple, ou à Christophe Lévy, qui m'a écrit il y a peu de temps, pour lequel j'ai fait une émission la semaine dernière. Christophe Lévy, qui a été connu grâce à Michel Cozem, qui l'a publié, qui lui joue une espèce de, comment dirais-je, un véritable culte. Tout cela, c'est cet esprit d'ouverture et de bienveillance. Si tu le fais bien, Annie, nous allons écouter maintenant Bruno Ruiz dans L'heure de la tourterelle.
Était-ce un chemin de pluie ou de lumière, celui si fragile qui s'en va dans le matin? Il y a des rêves dans ses bagages, des pétales de fleurs et des souvenirs d'enfance. Et tout est plus léger qu'on ne croit. C'est pourquoi cela est essentiel. C'est l'heure de la tourterelle. Elle a fait de l'arbre une citadelle. Et que dit-elle? Elle dit le temps qui passe sur son jabot doré, dans son nid au ventre chaud, dont elle chante la douceur et la tendresse incomparable. J'irai te décrocher de ta croix, pauvre homme grimaçant, à demi-nu dans l'hiver au carrefour de Rocamadour. Pas une seule mésange ne se pose sur ton bras décharné. Et que reproches-tu aux hommes qui ne viennent pas t'aider? Ta douleur ne changera jamais. La pierre penchée, depuis longtemps endormie, se glisse toute humide et noire dans le vaste pays vide. De quoi témoigne-t-elle encore? Où sont les gestes des fêtes et des espérances? Simplement immobile, une petite bouche de profil savoure les nuages et la litanie des jours. Soudain, la pierre, blanche et moussue à la fois, me mène sur le causse, amas d'arbres au pré à brûler de fleurs et de gros moutons blancs qui leur ressemblent. Je l'ignore encore, mais la pierre blanche et moussue, comme une croix de carrefour, me rassure. Je tiens dans ma main les mots de passe nécessaires pour aller droit vers ce qui m'attend. Du fond du canyon monte une brume d'incendie, et tout autour s'enroule un pays endormi dans de grandes couvertures de verdure. Pas un seul oiseau dans le ciel gris d'aujourd'hui, mais la fête des cyclamènes venue se frotter aux pierres blanches du bonheur. Dans le pré, si vert, un oiseau noir s'est posé et gagne à coups de bec un jour de vie supplémentaire. Le tumulus proche en témoigne-t-il ? Toutes les époques se mélangent et il ne reste plus au bout du compte que le petit scintillement des gouttes de pluie. Le muret, bien gentiment, avec toutes ses virgules et ses métaphores, disparaît avec tendresse et détermination dans le Cos vers une caverne ancienne où vivait un ancêtre, vers un laquais où se plongent les offrandes miraculeuses, puis, oublieux, continue son chemin comme un bison fidèle. Ici, les horloges donnent des heures différentes. Où en est-on en ce point du monde ? Alors que les orages de la nuit ne sont plus que brindilles insomniaques et que les petites flûtes d'oiseaux expriment leur vérité, quelle heure est-il en ce point du monde ? Là-bas, sur la colline bien labourée, se suivent en douce caravane les arbres aux frais branchages, les pins parasols dansant avec le vent et les peupliers rassemblés pour partir vers la montagne. Un clocher mûr les suit avec ses cloches au soleil, comme des bijoux répandant la sympathie sur tout le pays alentour. Labour, matin clair, sourire, tendresse des chats et des enfants, tout se rassemble pour planter ses racines. Le pigeonnier se promène au bout des grandes lignes labourées, ouvrant leur arche au vent et leur nid aux pigeons. Ailes et plumes se rassemblent dans la douce plainte des tiges qui vibrent, et de la vie qui n'en finit pas d'éclore. Une pie insouciante sur une motte de terre éparpille ses plumes pour qu'un jour on écrive ses drames. Sur la pierre où vient se poser l'oiseau, qu'est-il écrit en lettres de mousse en fleurs de lichen, en lignes de pluie venues du fond des âges ? Une longue et secrète histoire dont nul aujourd'hui n'a besoin. Et pourtant tant d'espérances passées, tant d'espoir, quel appel permanent à la lumière, à l'intelligence. Ce pays est depuis si longtemps habité, caressé, engrangé. Il offre aux passants d'aujourd'hui plus de 1000 ans de rêves, de hautes fleurs jaunes à allure de candélabres, des pierres qui parlent et des maisons que l'on rêve d'habiter. Il offre aussi tous les chemins de pèlerinage et des fleurs, du tournesol à la rose aux yeux de loup. Sur cette page, le vieil arbre, inflexible espérance, dit avec son écriture de branches son savoir multimillénaire. Il porte dans ses yeux les roses du soleil, et sa peau de mousse dorée propose des caresses. La lune et les orages sont loin, et je glisse entre le tronc et la liane de lierre un petit message de fraternité. Ici se rassemblent sous la lune la ronde des fées. Elles sont grandes et nues, et leurs jambes blanches se reposent près des jardins où s'achèvent les errances. Elles chantent avec, sur leur langue, de fines lames d'émeraude, et leurs yeux, comme le bout de leurs doigts, sont pleins de couvaisons. Je me retrouve par la simple magie de la pensée dans une oliveraie andalouse, du côté de Nijar. Je ne le dis à personne, mais je respire avec bonheur l'odeur des écorces. Et de toutes ces fleurs nourries au fil de l'histoire des papillons me disent que je pourrais demeurer ici, éternellement. Mais j'ai un autre pays dans mon cœur qui me pousse de courir vers le sud. Un petit vent frais balaye la lumière et parsème au loin sur le Cos toutes les graines du jour. Une tourterelle s'est posée sur le toit de l'Ose et insiste par un long discours sur sa vie d'entre les murets et les caselles jusqu'aux futaies grises où brille le miroir que chacun porte en soi pour annoncer qu'il est pèlerin. Je porte dans mon cœur, mais non dans mes doigts, toute l'année, un bouquet de coquelicots, de boutons d'or et de grandes mauves. Je n'ai nulle envie de les donner, sauf avec mes mots, et je chemine à la rencontre de tout et de rien. Le Cos, là où soufflent les phrases convulsives de la saison, je ne sais plus où tendre l'oreille, car ce sont des plaintes et des malédictions qui rôdent et mordent les pierres brûlantes et cherchent à rebondir dans les entrailles des gens perdus. Et la cigale continue, toujours. Portes et fenêtres dialoguent, et sur les murs, la ligne des pierres dessine des rêves et du confort. Toutes ensemble, elles remontent la rue dorée, bordée de fleurs rouges. Le clocher garde précisément le chant des oiseaux et l'appel des sonnailles. Une enfant blonde va tremper ses mains dans la fontaine et apporte un sourire de plus au matin calme. au beau milieu du terrain fauché, soudain, comme perdu avec des cornes qui parlent, un chevreuil est venu et s'interroge. Où sont les hautes fleurs si agréables? Des clôtures de fougères ne vont pas tarder à l'absorber. Était-ce une renarde, une fille échevelée qui s'arrête brusquement devant la grange en ruine? Le mur de devant, avec sa porte cloutée, ne protège plus que la mousse dolente et les planches squelettiques. Mais d'où vient ce bruit? Mon chevreuil, au ventre doré, au museau parlant aux cornes, où loge le chant des grives, m'attend ce matin, derrière un muret et sous un bois de chêne, au loin d'une prairie de pétales rouges, au cœur d'un champ fauché, prêt pour le regain. Il connaît bien ce pays et sait où se poser pour me regarder passer. Te revoilà donc, fier levé du Causse, planté en terre de rêve et, selon la légende, dans le corps des femmes. Comme toujours, on effeuille les beautés non dites et les graves espérances. On ne sait plus rien du vol des oiseaux ni des sérieux regards des chevreuils. Je suis heureux d'apprendre qu'à ma prochaine visite, rien ne sera changé au fil des siècles. Sur le coup d'air, avant la transhumance, l'eau verte du lac Abreuvoir jette sur les moutons tout nus des thons et des guêpes venues boire aussi au sang du monde. Bientôt le chemin disparaîtra dans la poussière et leur guide sera un nuage solitaire. Eux seuls savent ce que dit le feuillage blanc. Nous multiplions nos bouches en ce jardin précieux où naissent les métaphores. On les assemble en bouquets mauves ou dorés pour les offrir à qui veut les prendre, pour les planter à nouveau au plus secret des imaginaires. Le bois de chêne aux feuilles médaillées regarde à ses pieds le champ doré fauché préparé pour demain, où la nuit a replanté ses herbes vertes et folles pour le plaisir des chevreuils. Nul ne traverse en ce moment ce lac de lumière. Seule une tourterelle raconte son ennui et trompe le silence. Et que dit-elle d'autre? La beauté, la vérité, la tendresse en un seul mot, à travers le petit vent qui accompagne. Soudain, au milieu du champ labouré, dénudé, devenu plat, une pierre blanche. Elle est là, prête à bondir vers une orée d'ombre, emportant avec elle les mille petits secrets des graines et des saisons des yeux qui la regardent. Cela fait partie des lois et des écorchements essentiels en ce matin d'août qui annonce presque l'automne. La tourterelle dans la frondaison passe l'après-midi à roucouler. « Bonjour, oiseau inconnu. De d'où viens-tu à cette heure ?»« Ici, c'est chez moi. » Elle stoppe brusquement sa parole querelleuse et laisse dans le pré voleter les papillons. Et l'après-midi se prolonge dans un harmonieux mélange des cultures et des feuilles. La pierre levée offre dans sa robe striée venue des âges lointains des visages qui regardent encore les champs d'herbes folles, les querelleurs cornouillés et des bois blancs qui se dressent comme des eaux. Que disent-ils à ceux qui savent les voir, à ceux qui savent les entendre? Une grosse mouche attend pour colporter la nouvelle. Le soleil brille et tout s'est adouci. La colline, si doucement taillée, se glisse sous un bois et tout est dit. Elle n'a pas envie d'aller jusqu'à la mer, à la montagne, à la capitale. Elle est ici pour toujours, vallonnée pour elle-même et pour tous les nouveaux soupirants. Elle sait fort bien que chacun ici-bas se crée son destin. Il est sur la route du Causse une grande rose trémière. Elle témoigne de l'aube première teintée de rouge sanglant. Elle me parle quand je passe et fait signe que je m'arrête. Depuis longtemps, j'ai abandonné son paradis. Elle demeure candeur et brûlure, et cela suffit à tout. Les cigales perpétuent au milieu des buis luisants et des genévriers à demi-morts dans le petit bois, pour l'au-delà, une histoire lointaine où l'on peut faire venir les bandits de Navarre, les routiers auvergnats, les Anglais de la guerre de Cent Ans. Pour mâcher un peu plus la litanie des mots, les cigales savent perpétuer les centenaires. La vigne vierge a grimpé le long d'un arbre brûlé pour lui redonner vie et tendre un coup de girafe sur le surplomb ocre qui n'a jamais cessé de surveiller la vallée. Les récoltes se suivent, les coques des noix tombent et les truites scintillent en bondissant dans le reflet des orchidées. Le silence appelle la cloche du prieuré, seul capable d'annoncer les loups qui ne sont plus. L'immense pré émeraude à ciel ouvert, et chaque jour semblable à la beauté est désert. mais de l'oreille sort une bête souple, quatre pattes et pelage noir, file, revient, repart. D'autres la suivent aussi. Et la beauté se déchire quand les chasseurs brandissent leurs fusils mordants, tout cela avec leurs chiens dressés. La pierre levée en a vu d'autres et se tait. La maison collée à la falaise ouvre la porte sur l'infini et regarde au plus secret les gouffres, les refuges, les tanières du pays habité. Le toit apporte un geste de douce femme et offre, protection aux lignes verticales, la pente un peu plus ocre. Et de toutes les mémoires qui se rassemblent en haut de la muraille, quelques messages furtifs tomberont de cette merveille et aideront les hommes à vivre. Sur la ligne de crête, les cavernes, comme des guetteurs, surveillent le passage de tous les nuisibles, ceux qui, jadis, battaient la campagne avec aveuglement et violence. Je caresse un bouton d'or, il me sourit nonchalamment. Chaque rivière, dans les lointains paysages, a son écharpe de brume blanche, fleur de l'automne, clarté de la naissance et confiance dans l'avenir, éclat de réveil et d'aube, rencontre de cœurs partagés où l'on est l'heureux invité. L'eau de la rivière verte et ensoleillée en ce lieu glisse entre les feuillages, les peupliers fidèles et la falaise soudain muette. Un reflet animal glisse le long d'un coup d'aile comme le mot à jamais universel. L'étoile, si joliment tissée, soyeuse et toute blanche de rosée, reste au bout des plantes comme un appel. Pucerons et araignées se partagent le reste du temps à vivre. Et l'on peut imaginer les hanches étroites d'une fée émue comme l'éternité. Le château, comme une fleur potelée au-dessus du rocher, orne le beau jardin d'une princesse et jette dans la rivière de belles émeraudes aux lisières blanches, bien entretenues et éternellement caressées. Les racines, les galets, les saints et les branches se dorent au simple soleil de la beauté, et la rivière, infiniment heureuse, se glisse hors de son berceau. Le vide est habité par la roche blonde et rouge, les cris des martinets et les reflets de la rivière qui passe tout en bas. La légende s'en nourrit et se perpétue. Nous sommes à la croisée de la brisure, sur un terre-plein en plein ciel dessiné par les herbes sauvages, et les arbres se tiennent pour ne pas tomber. Nous sommes à la croisée de la croyance. Je t'en supplie, petit clocher carré où l'horloge donne l'heure du monde, n'oublie rien de tes promesses. Tous les volets bleus du village sont ouverts. Une vigne court au travers et tous les escaliers alentour mènent aux vendanges. Juste sur la cime du langage, on vient poser les offrandes au moment du carillon. Le mur est un poème, syllabe de pierre blanche, liaison de tuiles mauves où le temps s'écrit en mousse noire. Nul ne voit à l'intérieur par les petites fenêtres coquines. Mais l'on se doute de la richesse du blé et de toutes les récoltes jusqu'à celle des pommes que cachaient les moines au bon peuple qui mourait de faim. Nul ne pouvait pêcher au-delà de la croix. Ce qui reste de la tramontane, son dernier souffle, si charmante, jouant entre les feuilles, elle fait glisser sur la prairie un bruit de mer adoucie. Au milieu de l'herbe, une boule noire s'est posée. Est-ce une sorcière, une biche, un loup mendiant, une accorte bergère, un moine vociférant? Un simple regard me dit que tout glisse dans le recueil des jours. Dans le petit jour qui reste pour les étoiles, la terre est paisible et sereine. Et tout d'un coup, dans la proche forêt devenue noire, un vieil arbre craque et tombe. Pauvre lune qui tarde à venir. La belle pomme rouge y sortit, tout en larmes de la nuit devenue fraîche, toujours belle et toujours ronde, pleine de désirs à croquer. Elle attend le bon vouloir de son prédateur de passage, tout en écoutant rouler la rivière et par cela mener le monde. Dans le bois aux ormes droits, dans les caresses entre les feuillages, le soleil joue avec les fruits mûrs et les ruisseaux, comme des serpentines lisses leurs cils. Tout est calme, et le jardin d'enfants désert. Le troupeau s'est couché en bordure du champ d'herbe fraîche, sous le regard complice du vieux chêne. Il célèbre l'alliance du sang et du soleil dans les futures aubes aux poignées de lavande. Il ne reste plus qu'à faire une offrande au vent pour écouter le meuglement de toutes les mémoires. Le chant de blé mûr parle à voix haute avec l'histoire des hommes de ce pays. les plaisirs de la naissance et de la découverte, la force d'aller plus loin malgré les écorces et les toiles d'araignée, les pièges qu'un seul grain parvient à combattre. Sous la halle où rien ne bouge et où tout se bavarde, dans l'ombre en suspens passe un ray de lumière qui alerte les poussières et les pucerons. Passe une jouvencelle, riant on ne sait pourquoi, vendant mille choses connues, et toute la halle se dresse pour l'accompagner. L'orage gronde au loin, se moquant de l'est et de l'ouest, remuant les odeurs lourdes des plantes vives. Une grosse colombe pousse trois roucoulements, interrompus brusquement, écoutant les réponses dans le silence. Et au loin, comme un appel, un chien se plaint. Regarde le renard qui se glisse entre les coquelicots, et dans le ciel, le ventre rond d'un nuage qui lui ressemble. Je reconnais les champs verts où glisse l'or des pissenlits, les mailles serrées du blé et du seigle. La ligne d'arbres, signal ultime, c'est le moment de larguer les amarres.
Voilà, c'était Bruno Ruiz, et c'est émouvant d'écouter ce texte en sachant que c'est le dernier texte, posthume. Il n'a pas vu la publication de ce texte, Michel Cozem. Mais en même temps, je crois qu'il y a là beaucoup de Michel Cozem. D'abord, on le voit chez lui, là, à Iceps. Hein. C'est là, certainement, qu'il a vu ses tourterelles. Hein, Annie ?
Oui.
Est-ce que c'est à Iceps qu'il a vu aussi ses tourterelles dans
non,
ce,
non, pas à Iceps.
Alors,
c'est Fenoul.
Ah, c'est le Fenoul, c'est le Fenoul. Bon, oui. C'est dans le Lot, c'est pas bien loin.
Ah non, c'est à 10
kilomètres. C'est pas bien loin, c'est le même paysage.
10 kilomètres oui. Maximum. Et, oui. Et donc, oui. Non, c'est Fenoul, l'heure de la tourterelle. Oui. Et voilà,
il y a cette communion avec la nature que l'on sent.
Oui,
aussi.
En communion avec la nature. Et Fenoul est une clairière et dans la forêt. Et dans la forêt, et donc beaucoup plus. Oui. Bon, Iceps, c'est un village. On n'est pas au cœur du village. On est à 3000 mètres carrés de terrain avec un bois de chêne aussi. Mais ça n'est pas comme Fenoul, quoi.
Oui.
Voilà. Donc, tout son imaginaire de la nature, tout ce qu'il dit sur les chevreuils,
oui.
c'est Fenoul, oui.
L'imaginaire.
La maison d'écriture.
Tu as parlé de l'imaginaire, c'est Michel Duguay. Qui dans l'étude hein, qu'il a fait sur Michel Cozem,
oui.
Qui s'appelle justement Le temps de l'imaginaire.
Oui.
Alors, il évoque justement ce qu'il dit, lui, c'est, et je le cite, hein, une parole singulière ouvrant chose, être, paysage à eux-mêmes
oui.
Au cours d'une fête où les limites restent en suspens, où les règnes, animal, humain, végétal, s'échangent continuellement. Dialogue
exactement,
retrouvé,
exactement.
Réappropriation du cosmos dont les éléments ne se tiennent plus séparés. Voilà. Donc il y a dans cette poésie, hein, qui est une poésie là, de la nature avec cet imaginaire, ce lyrisme extraordinaire. Il y a quelque chose, moi, qui me semble aller... Alors, il y a quelque chose de la spiritualité, hein, évidente. Il y a une spiritualité de la nature, du cosmos. C'est ce que dit Michel Duguay quand il parle du cosmos. Il va se réapproprier le cosmos. Si se réapproprier le cosmos ce n'est pas entrer dans une forme entière de spiritualité, c'est quoi ? Et je crois que lui... Il était là, il était tout entier là-dedans, avec en plus ce souci à la fois donc d'unifier par le. Il dit quelque part que la poésie pour lui c'est quelque chose d'unificateur, qui fédère la poésie, le langage, il obtient toujours cette unification par la poésie. Voilà. Mais, bien sûr, il va travailler, hein, il a travaillé constamment. Hein, moi, j'ai toujours parlé de Michel comme un travailleur infatigable, ça le faisait rire. Mais je crois que c'est vrai. Quand on regarde toute sa production, il était toujours sur un livre, soit un roman, soit un livre pour la jeunesse, soit un recueil de poésie. Il n'arrêtait pas.
Et il n'arrêtait pas.
Il n'arrêtait pas. Et les éditions. Et les éditions. Des milliers, donc, il a publié un nombre considérable, considérable. Personne n'a fait ça. De poètes. Et dans les poètes qu'il a publiés, il y a les grands noms de la poésie du siècle dernier et de ce siècle. Voilà. Et lui, il est rentré quand même dans l'histoire de la poésie. Il est rentré déjà dans le XXe siècle, en partie avec René Nelly et avec Robert Sabatier. Hein, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. René Nelly, qui l'a mis dans son anthologie, avec lequel il avait sympathisé, et Nelly qui le tenait en très haute estime. Hein, il en parlait beaucoup, Nelly, de Michel Cozem. Ensuite, Robert Sabatier, dont dans sa volumineuse anthologie de la poésie du XXe siècle, qui parle de lui aussi, et donc il le fait rentrer dans le panthéon des poètes qui ont marqué l'histoire du XXe siècle. Voilà. Et ensuite, lui, bien entendu, il a prolongé tout ça jusqu'en 2023, c'est-à-dire qu'il rentre aussi dans une grande part, du moins le premier quart du XXIe siècle.
Il tenait en grande estime René Nelly. Oui. Bon, Sabatier, bien sûr.
Oui.
Mais René Nelly, c'était une sorte de dieu pour lui.
Il y a de quoi ?
Tu m'entends ?
Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui, oui, oui. Et René Nelly lui a bien rendu, c'est-à-dire que vraiment.
Oui.
Il y a bien
voulu. Oui, oui, il lui a envoyé jusqu'au dernier moment des poèmes. Hein,
oui.
Encrevive.
Oui, Encrevive a publié René Nelly. Moi, j'ai les évidemment chez moi, j'ai les exemplaires de ce qu'a publié Michel Cozem, donc de René Nelly. Et Michel Cozem, bon, tu le sais, je le connais depuis l'âge de 12 ans. J'avais 12 ans. Quand je suis allé le voir à l'AG, j'étais fanat de poésie, il y avait ça qui m'intéressait. Et à cette époque-là, il faut bien dire que le début des années, ça commençait en 1960, mais ces années 60 à 65, ce sont des années d'avant-garde de la poésie. Et à l'avant-garde de la poésie, on trouve Michel Cozem à cette époque-là.
Eh oui.
Voilà, ce qui est après. Michel Cozem est rentré dans un côté plus lyrique, plus classique. Mais il faut vraiment, dans les années, le début des années 60, c'était vraiment, il était même dans la poésie expérimentale. Les poètes qu'il publiait, et je les ai moi, ces collections, je les ai. Ce sont des poètes qui n'auraient pas démérité sur tel quel, etc., dans la déconstruction même de la langue, etc.
Mais Tixier dit.
Oui, Jean-Marc Tixier.
Bon, je peux intervenir là.
Oui, oui, oui.
À propos de tel quel, Michel et Tixier étaient bien d'accord pour ne pas entrer à tel quel,
oui.
Vraiment, parce qu'ils auraient été engloutis par tel quel. Voilà, pour rester indépendants et eux-mêmes, ils n'ont pas voulu être phagocytés par tel quel. Oui. Bon, et dans un numéro, dans deux numéros d'Encrevive, de Jean-Max Tixier, c'est très clair.
Oui, je crois qu'ils ont eu totalement raison. Ça aussi, c'est un trait de caractère qu'il faut absolument souligner, parce que c'est un trait de caractère de courage, d'immense même courage. Il n'a jamais fait dans la facilité, Michel. Il a toujours gardé son indépendance, mais d'une façon absolue. Vraiment, il était dans une indépendance rigoureuse, tout le temps, tout le temps. C'est même peut-être ce qui le caractérise le mieux, hein, cette
et
indépendance.
Alain Duhaut m'a écrit un petit mail très gentil et me disant « Michel était un homme vrai ».
Oui.
Voilà. Cette phrase me reste en mémoire. Michel était un homme vrai. C'est court et ça dit
tout. Oui. C'est-à-dire que il ne s'est jamais renié. Et il a gardé jalousement cette indépendance, quelles qu'en soient les conséquences, en définitive. Parce que cette indépendance, en même temps, je crois qu'elle était commune avec ce souci aussi quand même de fédérer les poètes. Hein. Par exemple, ça c'était très important parce que c'est rare, quelqu'un qui ait eu, avec ce souci d'indépendance, cette intégrité qui est la sienne, absolue, intégrité absolue.
Mais de donner sa chance.
Voilà.
À l'ouverture. Combien de poètes ont commencé avec lui. Et je crois même qu'Éric lui-même a commencé sa poésie avec lui. Oui. Et c'était son but de donner la poésie à ceux qui l'avaient en eux, mais qui n'osaient pas encore s'affirmer. Quoi. C'est formidable, ça.
Oui. Et là, je parlais de Christophe Lévy, par exemple. La semaine dernière, nous avons fait une émission sur un petit fascicule qu'il a sorti. Christophe Lévy, eh bien, c'est Michel Cozem l'a publié. Et bon, ça a été pour lui très important parce que ça lui a donné une certaine assurance et il a pu continuer. C'est exactement ce que tu dis. Il a donné sa chance. Il y avait beaucoup de bienveillance, mais en même temps, il n'y avait pas vraiment de complaisance.
Non.
La qualité, il ne publiait vraiment que ce qu'il avait vraiment voulu publier. Avec ce souci de toujours publier quand même quelque chose qui méritait quoi, la diffusion. Nous aurons le plaisir, Annie, de t'écouter jeudi.
Jeudi
23 mai à 18h à l'hôtel d'Assesa, place d'Assesa à Toulouse, hein, c'est à côté de la fondation Bemberg, hein, l'hôtel d'Assesa.
Voilà. Pour l'instant, je suis encore ISF et je bondis dans 5 minutes dans ma voiture et je vais sur Toulouse et inviter juste une amie, bien sûr.
D'accord. Merci beaucoup, merci beaucoup, Annie.
Allez,
Brier.
Merci
Annie. Et donc, à jeudi.
À jeudi. Au revoir.
Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous invitons bien sûr à vous rendre. C'est gratuit. Et c'est un événement. À vous rendre à l'hôtel d'Assesa, jeudi 23 mai à 18h. Pour cet hommage qui sera rendu à Michel Cozem, où vous aurez l'équipe de Michel Cozem d'Encre Vive qui sera là et qui lira ses textes. Voilà. Claude et moi, nous vous attendons donc ce jeudi 23 mai à 18h. Et en attendant, nous vous souhaitons une excellente soirée, une excellente après-midi à l'écoute de Radio Occitanie. À la semaine prochaine, à 10h.